Chronique d'un siècle. Une émission culturelle présentée par Jeanne Boursier sur Radio Boomerang 89.7 FM. Bonjour à toutes et à tous, Jeanne Boursier pour Chronique d'un siècle sur Radio Boomerang 89.7 FM. Nous vivons dans le monde de la communication. Je communique, tu communiques, elle, il communique, nous communiquons, vous communiquez, etc. C'est certainement pour cette raison que les clubs, agences, sites de rencontres pullulent sur Internet. Il en existe pour célibataires de tous sexes, de tous âges, pour co-religionnaires, pour ados isolés, pour geeks, pour consommateurs de cannabis, pour alcooliques, désirant flirter, copuler, cocufier, se paxer ou se marier. Dans un souci d'égalité, les rutes de nos animaux domestiques ont été mises sur petite annonce aussi. Médor cherche bibiche pour copulation et plus si affinité. Et un illuminé a même tenté de lancer un site de rencontre pour pédophiles. Mais apparemment cela a échoué. Notre société a des principes quand même. Les noms de ces officines évoquent les fantasmes de chacun. Mythique, e-darling, célibataire du Nord, attractive world, élite rencontre, e-mazal, mektoub, Juste Seigneur, Notre-Dame des rencontres, Love Your Imperfection, Adoptamec.com. Ce dernier site, le plus hype, répertorie en une méthode digne des meilleures écoles de marketing les hippies, les hipsters, les rockers ou tout simplement les produits régionaux afin que les femmes les plus libérées y trouvent le mec qui conviendra à leur fantasme. Femme libérée, ce terme me renvoie à bien des années en arrière avec la fameuse chanson de Cookie Dingle, Femme libérée.
En cachette, c'est bien plus marrant. Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Au fond de son lit, un macho s'endort qui ne l'aimera pas plus loin que l'aurore. Mais elle s'en fout, elle s'éclate quand même. Et lui ronronne des tonnes de je t'aime. Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais c'est pas si facile. Chaque fois qu'elle sort, même dans elle, ils disent qu'il faut faire un effort. Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Elle fume beaucoup, elle a des avis sur tout. Elle aime raconter qu'elle s'est changée une roue. Elle avoue son âge, celui de ses enfants. De temps en temps, ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. C'est pas si facile, non. Mmh. ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile, ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile, ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile.
Mais revenons aux choses sérieuses. Bien avant l'agence matrimoniale, il existait, et cela dans toutes les civilisations, les marieuses et les marieurs aussi, car il ne faut pas donner ce rôle aux seules femmes. En 1875, dans son roman « Un mariage dans le monde », Octave Feuillet, oublié aujourd'hui mais célèbre sous le Second Empire, décrivait en incipit de son ouvrage une marieuse du grand monde. Madame de Lavelle, veuve du contre-amiral de Loris, avait épousé en seconde noce le général marquis de Lavelle. Heureuse à son gré dans ses deux unions successives, la marquise s'était fait un devoir pieux et divertissant à la fois de propager le goût d'une institution dont elle n'avait eu elle-même qu'à se louer. Elle s'occupait avec passion de marier les gens. Sa considération personnelle, ses grandes relations, ses succès remarqués dans quelques opérations difficiles lui avaient conquis la confiance du public. Elle avait en outre, comme elle le disait elle-même, une bonne enseigne à sa porte. C'était sa belle-fille, Louise de Loris. Monsieur de Loris était officier de marine. Ses absences fréquentes et prolongées imposaient à sa jeune femme un rôle délicat dont elle s'acquittait avec un mérite qui faisait grand honneur au discernement de sa belle-mère. Ce système fonctionna très bien pendant des siècles. Mais l'exode rural, la fin des réseaux de la famille, l'isolement de certains jeunes gens dans les grandes villes mirent à mal le réseau des marieurs et des marieuses. Un petit intermède avec le son de la marieuse, extrême 4 duo pour violon de Béla Bartok. Interprété ici par Isaac Perlman et Pinkas Zuckerman. Il faut remonter à Théophraste Renaudot, le créateur de la Gazette et le précurseur de la presse, pour comprendre comment naquirent les petites annonces. Théophraste Renaudot ouvrit en 1628-1629 un bureau d'adresse avec don d'un privilège royal. Il s'agissait pour lui d'accueillir des offres et des demandes d'emploi pour apporter un remède à la pauvreté et au vagabondage sans le concours de l'Église, de la charité traditionnelle ou encore de l'enfermement. En 1633, tous les sans-emploi doivent s'y inscrire. C'est la création du premier journal d'annonce, la feuille du bureau d'adresse, connue aussi sous le titre « Les petites affiches », une feuille que l'on distribuait à domicile. Ce bureau situé sur l'île de la Cité apporta la prospérité à Théophraste Renaudot et lui donna l'occasion de développer de nouvelles activités. Pour 3 sous, on pouvait faire figurer des propositions de vente, de location ou de service. Avec l'aide d'un médecin, il créa dans son bureau un dispensaire payant pour les riches et gratuit pour les pauvres. Il créa des conférences médicales et ensuite des conférences aux sujets variés qui furent les ancêtres des conférences mondaines. En 1637, toujours à cette même adresse, il créa le premier mont de piété avec l'autorisation du roi Louis XIII. À partir de cette époque, les agences d'affaires prospérèrent. C'est à partir du XVIIIe siècle que ces agences qui s'occupaient des transactions immobilières, des voyages, des successions, des recouvrements de créances, ouvrirent une nouvelle branche, le courtage matrimonial. La plus ancienne annonce date de 1738. Pourquoi un courtage matrimonial ? Eh bien, c'était une sûreté pour les dots. En effet, les familles cherchaient à trouver des partis avantageux pour leurs enfants. Un courtage était l'assurance de bien marier son fils ou sa fille. Cela devint tellement à la mode qu'une comédie fut créée sur ce thème en 1780, les petites affiches. Et voici, dansant et léger, le menuet de Boccherini. Sous la Révolution française fut éditée une feuille d'annonce pour les mariages, l'indicateur des mariages, qui marqua au point qu'en 1797, Saint-Firmin, un prêtre, homme de lettres et franc-maçon, présenta sa comédie en un acte, le mariage par les petites affiches. Cette mode des mariages par affiche faisait fureur au point qu'Auguste von Kotzebue, voyageant à Paris en 1804, y consacra dans ses souvenirs un chapitre. Il ne se passe pas une semaine à Paris où l'on ne trouve quelques propositions de mariage dans les feuilles publiques. on ne sait pas toujours ce qu'il en résulte. Cependant, il est à parier que cela réussit souvent. Sans cela, on ne ferait pas un usage aussi fréquent de ce moyen. Au reste, je vais citer quelques exemples qui ne seront pas sans intérêt pour l'observateur impartial. Un célibataire de 40 ans, versé dans la littérature, d'une société aimable, de mœurs douces, de bonne famille et assez riche, cherche une femme ou veuve sans enfant, de 26 à 34 ans, bien élevée, sensible et dans l'aisance, pour s'unir à elle et couler ensemble des jours heureux. Ce mot « unir » veut-il dire se marier ? Je ne le crois pas. D'un autre côté, pourquoi exiger que la personne soit de bonne famille ? Un homme de 38 ans, parfaitement libre, aisé, etc., désire trouver une femme qui ait un peu de bien et veuille faire société avec lui. Le mot « marier » est encore évité. Un veuf de 60 ans, sans enfant et de bonne santé, ayant 1400 francs de rente, habitant depuis 10 ans un joli appartement près des Tuileries, cherche une dame d'un âge convenable, d'un caractère doux et avec quelques moyens pour lui faire des propositions qui pourront lui convenir ou pour entendre les siennes. Ce vieux libertin se garde bien aussi de parler mariage, seulement il établit comme condition expresse que la personne ne soit pas pauvre. Du reste, il est à remarquer qu'il met un prix à ce que sa demeure est près des Tuileries. Cela est apparemment très engageant pour une Française. Une jeune veuve, intéressante sous tous les rapports, tant pour le caractère que pour le physique, bien élevée, mais ayant perdu sa fortune, désire trouver une personne seule à qui sa compagnie soit agréable. Par cette personne seule, on entend un homme. Cela se devine assez par l'éloge qu'on fait de la figure, ce qui serait au moins indifférent auprès d'une dame. Le reste du chapitre est du même acabit. Les théâtres continuaient à monter des pièces sur ce thème, comme, entre autres, les mariages par demande et réponse en 1810 ou matrimoniomanie en 1812. En 1811, un certain Claude Villaume créa une agence de petites affiches et publia son livre « Monsieur Villaume peint par lui-même et travesti par d'autres » ou « Son agence et ses mariages ». Bref, un livre de réclame. La première agence matrimoniale attestée et strictement matrimoniale ouvre ses portes en 1825 sur l'instigation de Monsieur de Foix. Tout y est. Inscription sur les registres, main libre pour le directeur, pas d'acompte, sauf si le mariage est consommé. Alors on verse 5% de la dot à l'agence. Pour les femmes, on demande l'âge, la profession, la fortune du père, la dot et les espérances d'héritage. Pour l'homme, on demande l'identité, l'âge, la résidence et le montant de ses biens. Cette agence eut une excellente réputation. Et elle servira d'exemple à toutes les agences qui s'ouvriront par la suite. Le gage de sûreté tenait dans ses 5 à 10% sur la dot. Une fois l'affaire faite, jamais d'acompte.
Ma tante, vous ne faites donc pas votre partie de bouillotte ce soir ?
J'attends que le quart d'heure soit fini.
C'est moi qui sors. Dans 5 minutes, je vous cède la place.
Papa Bleu, voilà une singulière annonce.
Quoi donc ?
Une demoiselle, d'une beauté sévère, mais chez qui la majesté n'exclut pas la grâce, jouissant d'un revenu de 5000 francs placé en obligation de chemin de fer, désire s'unir à un honnête homme, veuf ou garçon, doué d'une santé robuste, d'un caractère gai et peu avancé en âge. On ne tient pas à la fortune. On consentirait à habiter une petite ville bien située, s'adresser pour les renseignements à Monsieur X, rue Joubert, 55, à Franchy.
Mais je connais cette annonce-là. Ça fait plus de 3 ans que je la vois dans mon journal. Je passe. J'ai une dent qui me fait mal.
Je vois le jeu. Qu'est-ce que vous faites ? 10 centimes. J'affile.
Comprend-on qu'une femme s'affiche de la sorte au mépris de toute pudeur ?
Mais je ne vois pas de mal à cela. Souvent, une pauvre femme végète dans un coin oublié de la province. Dans un autre coin respire peut-être ignorer l'être mélancolique qui doit faire son bonheur. la publicité les rapproche.
On dit qu'il y a de très beaux mariages par le canal des petites affiches. Quant à moi qui suis garçon, ces sortes d'annonces me font toujours rêver.
Mais c'est moi donc, des bêtises. Quand on veut se marier, on se fréquente. Lorsque j'ai voulu épouser Madame Bonadon, ma défunte, je l'ai fréquentée. Et ferme.
Voyons, au jeu, au jeu.
Vous venez d'entendre les premières répliques de La Cagnotte, d'Eugène Labiche. Génial vaudevilliste, né en 1815 et mort en 1888, devenu célèbre en 1860 avec Le Voyage de Monsieur Perrichon. Son œuvre repose sur la satire d'un monde étriqué qu'il connaît bien et auquel il appartient, la bourgeoisie. Dans La Cagnotte, Labiche peint un agent matrimonial cynique et grotesque nommé Coquarel. Le XIXe siècle verra fleurir pièces de théâtre et romans populaires qui exploiteront le filon de l'agence matrimoniale. Par exemple, L'agent matrimonial, écrit en 1837 par Salva et Pierrot de Renneville. L'agence matrimoniale en 1873 d'Émile Desbeaux. Les Gandins de Ponson du Terrail, le père de Rocambole. Les Bêtises du cœur, les Volontaires de l'amour d'Émile Villemot en 1881. La Cagnotte, j'ai oublié de le préciser, date de 1864. Il ne faut pas se faire d'illusions. D'autres annonces mensongères, les agences malhonnêtes inspirèrent les auteurs. Les journaux aussi pointèrent du doigt les agences. Ainsi, en 1856, l'Argus et Verver réunis, un hebdomadaire lyonnais, publient un article intitulé « Une agence matrimoniale » dont la teneur ne laisse aucun doute sur la pensée du journaliste. En voici deux extraits, un du début et l'autre de la fin. « J'ai voulu voir de près une agence matrimoniale et je me suis fait présenter à Monsieur X. » Ce monsieur X est un homme d'une cinquantaine d'années, à perruque blonde, souriant, frais rasé, et qui ressemble à un ténor de province. « Monsieur, m'a-t-il dit après m'avoir offert un siège, on se fait dans le monde une très fausse idée de mon établissement. Il y a des gens qui se figurent que j'ai sous clé un escadron de dames et de demoiselles qui caracole sous les yeux du visiteur, lequel serait dans la position d'un sultan jetant le mouchoir. D'autres se contentent de supposer qu'on aperçoit les dames qui veulent se marier par le trou d'une serrure. Rien n'est plus simple que mon établissement, continua Monsieur X. Et en même temps, rien n'est plus compliqué que ces rouages. Je dois d'abord commencer par vous déclarer que j'ai très peu à faire aux femmes et que je ne traite guère directement qu'avec les hommes. Dans la comédie conjugale dont je suis le metteur en scène, les femmes jouent un rôle sans le savoir. Ainsi, j'ai des correspondants dans tous les chefs-lieux, je suis en relation avec tous les notaires de France qui me tiennent au courant des différentes dotes de leur ressort. Je range les dotes par compartiment selon leur importance et je suis le seul homme de France qui pourrait dire approximativement à quel chiffre montent, année commune, toutes les dotes réunies de l'Empire. En sortant de chez Monsieur X, cet Archimède de la dot, je me suis livré à toutes sortes de réflexions. La position faite aux femmes dans la société est une situation inférieure, honteuse, outrageante. Les femmes turques sur la destinée desquelles nous nous apitoyons ne sont pas traitées par leur seigneur avec cette superbe insolence. Les musulmans constituent une dot aux femmes qu'ils épousent, tandis que les sultans européens se font payer pour accorder à celles qu'ils appellent leurs compagnes une place dans leur lit. Un jeune homme a une maîtresse, il reçoit de l'argent de cette femme, on le sait, il est déshonoré. Voici une jeune fille que vous ne connaissez pas, vous lui faites la cour, vous l'épousez. Elle vous apporte 2, 3, 400 000 francs. En votre qualité de chef de la communauté, vous faites de cet argent ce que bon vous semble et vous êtes un honnête homme. Faites comprendre, si vous le pouvez, cette subtilité. En 1878, l'on trouve dans Le Petit Parisien une critique bien enlevée de ces agences. Le titre en est « Gai, gai, marions-nous ». En effet, notre société a tellement senti le besoin d'apporter dans l'union de deux âmes éperdues de tendresse les procédés de transactions commerciales usités pour la conclusion d'un bail de 3, 6, 9, que des agences ont été fondées dans le but éminemment louable de suppléer à l'insuffisance de nos sentiments. Nous avons des bureaux de placement, où l'on va chercher une compagne, comme ailleurs on irait choisir un concierge. Tout y est garanti, la fortune, l'honorabilité, les espérances. Le scepticisme de cet article se comprend quand on connaît les scandales qui éclatèrent dans les journaux. Ainsi, celui de Madame Saint-Just en 1873, dont le journal, le 19e siècle, donna le compte-rendu sur deux colonnes. Voici le début de cet article qui donne une idée de ce que put être l'affaire. L'Institut matrimonial de France. La prévenue est une femme de 52 ans dont la vie, on peut en juger, a été jusqu'ici assez accidentée. Elle a en effet commencé à débuter dans le monde galant. Elle y obtint du succès grâce à son luxe et à ses excentricités qui inquiétèrent le personnage qui l'entretenait. Mais ne pouvant consentir à briller au second rang, elle se lança dans le commerce, créa une entreprise de produits chimiques et fit faillite. Enfin, ces derniers temps, elle tirait les cartes sous le nom de Madame Hermosa et dirigeait l'Institut matrimonial de France, dont le prospectus suivant donnera une idée suffisante. Mariage riche. Institut matrimonial de France fondé par Madame de Saint-Just pour faciliter entre les familles honorables et opulentes les alliances les mieux assorties au point de vue physiologique et social. Dot de 400 000 francs à plusieurs millions. Rue de Maubeuge, 32, Paris. Un petit intermède avec un sketch de Bach et Laverne, un duo comique des années 1930. Voici donc à l'agence matrimoniale.
Pardon, monsieur. L'agence matrimoniale, je vous prie.
Mais c'est ici, monsieur.
Je voudrais parler au directeur.
C'est moi, monsieur. Je suis divorcé.
Ah, toutes mes condoléances.
Ah non, vous vous méprenez. Quand je dis je suis divorcé, c'est mon nom. Jean Divorcé, directeur de l'agence Divorcé et compagnie.
Ah oui.
Mais ça ne m'empêche pas de faire de très jolis mariages.
Eh bien, montrez-moi donc toutes vos fiancées. Je pourrais peut-être bien trouver chaussures à mon pied.
Volontiers, monsieur. Voici tout d'abord mademoiselle Jeannick, solide bretonne, qui nous vient tout droit de Ploupen.
Madoui, que beau garçon.
Pas mal, pas mal. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi, ma pervenche?
Je suis cuisinière.
Je l'aurais deviné rien qu'à ton nez en pied de marmite. Canaille.
Hello, bonne époque.
Oh, ne te fâche pas, fillette. Allons, viens un peu ici que je te reluque. Dieu me pardonne, mais t'as les yeux qui se croisent les bras.
C'est parce que vous la regardez de face, n'est-ce pas, monsieur? Mais de profil, ça ne se voit pas.
Ça ne se voit pas. Dites-moi, monsieur divorcé, je voudrais tout de même bien voir la suivante.
Et très volontiers, monsieur. Voici mademoiselle Mireille, la perle de la Provence.
Ah, elle, au moins, elle a des yeux. Des yeux magnifiques.
Oh, dites, vous galérez, mon petit frère.
Arrêtez. Faut pas qu'elle rie. Elle a plus qu'une dent.
Ben, vous en serez quitte pour lui acheter un râtelier comme cadeau de noces, cher monsieur. Mais si vous préférez mademoiselle Juliette, notre jolie parisienne, la voici, précisément.
Oh, celle-là, elle est volupéteuse, la matine. Avec son nez en pointe d'aiguille et ses joues en pelote d'épingle, elle a une drôle de bobine. Je parie que c'est une couturière.
Tu charibotes, des ballons. Je suis dactylo. Du reste, tu vas voir si je sais taper. Tiens.
Oh, qui gifle. Mais t'as des doigts d'acier, bon sang. Je veux pas être en reste. Je vais te la rendre, ta baffe. Tiens.
Oh. Comme t'es malin. Il m'a fait tomber ma perruque sans douille.
Oh, mais ma parole, elle n'a plus un cheveu. Elle a le crâne qui brille. On dirait qu'on vient encaustiquer.
Oh, décidément, monsieur, vous êtes vraiment trop difficile.
Difficile. Mais ce que vous m'offrez là, je l'ai chez moi, parce que pour vous dire, je suis déjà marié.
Mais alors, qu'est-ce que vous venez faire ici?
Ben voilà, j'étais venu vous voir des fois que je deviendrais veuf.
Ah oui?
Mais en attendant, je préfère ma femme. Parce qu'elle, au moins, elle a toutes les qualités de ces demoiselles.
Qu'est-ce?
Elle a plus qu'une dent, elle louche, elle porte perruque.
Eh oui.
Et en plus, elle boite, elle n'entend pas bien. Et c'est flatteur pour moi.
Quoi donc?
On la prend souvent pour mon grand-père.
Pour votre grand-père?
Oui, parce que si elle a plus de cheveux, elle au moins... elle a de la barbe. Au revoir, monsieur divorcé. Elle a de la barbe.
Les annonces que l'on trouvait dans les journaux d'annonces ou dans les journaux de presse continuèrent à faire des heureux. À la fin du XIXe siècle, l'idée développée par les petites affiches ou l'indicateur des mariages au XVIIIe siècle se modernisa et le 15 juin 1885 parut pour la première fois l'incontournable chasseur français. Les annonces, on le sait, pouvaient être dangereuses. Landru l'a prouvé.
Monsieur le procureur, je regrette de n'avoir à vous offrir que ma tête.
Oh, silence, où je vais évacuer la chaîne.
Landru, 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 vilain barbu, tu fais peur aux enfants, tu séduis les mamans. Landru, Landru, ton crâne et ton poil de rue ont fait tomber bien plus d'un prix de vertu. C'était, je crois, en 1923 que ton procès eut le succès que l'on sait. Landru, Landru, dommage qu'elle t'ait cru, toutes celles qui sous ton toit brûlèrent pour toi. Tu leur parlais si bien lorsque tu leur disais: venez ma douce amie, allons vite à Gambet. J'ai une petite villa, rien que monter, descendre. Et là, seule montait et descendait ensemble. Landru, Landru, de quel bois te chauffes-tu? Ton four fait de la fumée sous la verte ramée. Landru, Landru, un ramoneur est venu. Il a dans ta cheminée trouvé un nid calciné. Pendant le verdict, pas un mot, pas un tic, énigmatique, tu restes hiératique. Landru, Landru, en jaquette, en bottine, y a une veuve qui t'a eu la guillotine. Landru, Landru, on prétend qu'on t'a vu en bon petit vieux grand-père vivant à Buenos Aires. La barbe rasée et la moustache frisée, plus rien de l'homme d'alors, c'est ça la mort. Disons tout de suite qu'en 1928, ce genre d'histoire était facile à croire. Landru, Landru, tout passe avec le temps, à présent tu ne fais plus peur aux enfants. Mais tu séduis pourtant bien des grands-mamans et Blue Castel la tarde. Elle rêve de ta barbe et de son poil dru, vieux Landru.
C'était, vous l'avez sans doute reconnu, Charles Trenet.
Monsieur le procureur, je regrette de n'avoir à vous offrir que ma tête.
Oh, oh, silence, où je vais évacuer la chaîne.
Landru, 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 vilain barbu, tu fais peur aux enfants, tu séduis les mamans. Landru, Landru, ton crâne et ton poil de rue ont fait tomber bien plus d'un prix de vertu. C'était, je crois, en 1923 que ton procès eut le succès que l'on sait. Landru, Landru, dommage qu'elle t'ait cru, toutes celles qui sous ton toit brûlèrent pour toi. Tu leur parlais si bien lorsque tu leur disais: venez ma douce amie, allons vite à Gambet. J'ai une petite villa, rien que monter, descendre. Et là, seule montait et descendait ensemble. Landru, Landru, de quel bois te chauffes-tu? Ton four fait de la fumée sous la verte ramée. Landru, Landru, un ramoneur est venu. Il a dans ta cheminée trouvé un nid calciné. Pendant le verdict, pas un mot, pas un tic, énigmatique, tu restes hiératique. Landru, Landru, en jaquette, en bottine, y a une veuve qui t'a eu la guillotine. Landru, Landru, on prétend qu'on t'a vu en bon petit vieux grand-père vivant à Buenos Aires. La barbe rasée et la moustache frisée, plus rien de l'homme d'alors, c'est ça la mort. Disons tout de suite qu'en 1928, ce genre d'histoire était facile à croire. Landru, Landru, tout passe avec le temps, à présent tu ne fais plus peur aux enfants. Mais tu séduis pourtant bien des grands-mamans, et Blougastel la tarbe, elle rêve de ta barbe et de son poil dru, vieux Landru.
Vous avez reconnu évidemment Charles Trenet. Dans les années 1870, les agences connurent un essor fulgurant. On en trouvait 150 rien qu'à Paris et une dizaine dans toutes les grandes villes. Elles s'occupaient des dots, nous l'avons vu, mais aussi des affaires délicates, c'est-à-dire de la faute, de la tare, de celles que l'on appelait à l'époque des filles-mères. Pour trouver un mari qui ferma les yeux, les parents devaient donner une somme exorbitante à l'agent matrimonial, et ainsi l'honneur était sauf. Et si l'on mettait un petit Goldman pour chanter toutes les mères célibataires, elle a fait un bébé toute seule.
Féminité. Elle me téléphone quand elle est mal, quand elle peut pas dormir. Je l'emmène au cinéma, je lui fais des câlins, je la fais rire. Un peu comme un grand frère, un peu incestueux, quand elle veut. Puis son gamin, c'est presque le mien, sauf qu'il a les yeux bleus. Elle a fait un bébé toute seule.
Vous pensez bien que la police commença très sérieusement à s'en mêler. Selon l'étude faite par le directeur des recherches de la préfecture, Louis Pubarot, l'escroquerie au mariage s'exerce à Paris sur une vaste échelle. Nous n'avons bien entendu dans cette étude qu'à nous occuper des gens qui professent cette escroquerie comme un métier et qui par conséquent ne se marient pas en réalité, mais feignent de vouloir se marier, ou encore servent d'intermédiaires. En un mot, ce sont les candidats professionnels au mariage et les agences matrimoniales que nous avons en vue. Quant aux agences matrimoniales, sans nier qu'il y en ait quelques-unes bien rares d'honorables, elles sont presque toutes des miroirs aux alouettes. Je terminerai cette émission avec les confessions d'un agent matrimonial que Marie-François Goron, commissaire à Pantin puis chef de la sûreté à la préfecture de police, écouta et retranscrit dans un chapitre de son ouvrage écrit en 1899, « L'amour à Paris ». Voyons, monsieur Goron, trouvez-vous qu'il est plus immoral de marier légitimement les gens que de faire des unions passagères comme certaines donzelles dont les salons fort achalandés ont la protection clandestine de la police? Pourquoi alors nous traquer? Pourquoi suffit-il d'avoir demandé des arts à un client et ne pas l'avoir marié pour être jugé comme escroc? Mais monsieur, ce sont les clients qui sont les escrocs. Tenez, moi qui vous parle, j'ai fait beaucoup de mariages, quoi qu'on en ait dit lors de mon procès. Eh bien, il n'y a pas 10 clients qui m'ont payé la commission promise. Je vous assure pourtant, monsieur Goron, qu'il y a des agents matrimoniaux honnêtes et qui font réellement des mariages. Tenez, rappelez-vous, il y a 2 ou 3 ans, ce procès qui fit tant de bruit. Ce noble qui était accusé d'avoir fait disparaître l'enfant que sa femme avait eu avant son mariage. La petite tâche traditionnelle. Eh bien, ne fut-il pas établi au procès que c'était par l'intermédiaire d'une agence que le noble avait épousé une demoiselle avec petite tâche, possédant une grosse fortune? Vous voyez bien que les agences matrimoniales marient. Sur ces paroles, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Au revoir. Chronique d'un siècle. Une émission culturelle présentée par Jeanne Boursier. Sur Radio Boomerang 89.7 FM.